Vous écoutez RTL.
John Ronald Rudolph Tolkien.
RTL.
Deux livres. Un conte pour enfants, Le Hobbit, et une épopée de plus de 1000 pages, Le Seigneur des Anneaux, ont entraîné des générations successives de lecteurs sur les traces de Bilbo, le Hobbit, de son neveu Frodo, du magicien Gandalf, jusque dans le monde imaginaire de la Terre du Milieu.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le Seigneur des Anneaux, avant d'être des films, des blockbusters américains, c'est avant tout un grand roman, le deuxième livre le plus vendu de tous les temps. Cette épopée fantastique est l'œuvre d'un Anglais, J.R. Tolkien, et vous allez découvrir que son univers est en réalité inspiré de sa vie depuis sa plus tendre enfance et des grands bouleversements de son époque. Bonsoir Vincent Ferré.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de littérature à l'université de Paris-Est, Créteil, grand amoureux et grand spécialiste de Tolkien, auteur de nombreux livres sur le sujet, on aura l'occasion de les citer. Quelle histoire raconte le Seigneur des Anneaux
En 35 secondes.
En 35 secondes, ce que vous êtes capable. Non mais vraiment,
C'est l'histoire d'un voyage dans un monde imaginaire inventé par Tolkien. Et c'est l'histoire d'une quête, ou d'une quête à l'envers. Un groupe de personnages décide de détruire un anneau. Ils sont 9 et ça va être long, difficile, et on ne sait pas jusqu'à la fin s'ils vont y parvenir.
Alors ce qui va être long et difficile, on va y revenir, c'est l'écriture et la publication, décidément, de ces 1000 pages, de cette saga du Seigneur des Anneaux. Pourquoi c'est si long? Ça va mettre combien de temps déjà?
Alors, en gros, une quinzaine d'années.
Pour l'écriture?
Oui, pour l'écriture et la finalisation du texte, parce que Tolkien ne savait pas du tout où il allait. Il écrivait tout autre chose depuis une vingtaine d'années quand on lui a passé commande du Seigneur des Anneaux. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, c'était quelqu'un qui était vraiment dans son époque, vraiment dans son siècle. Il était professeur à Oxford à cette époque et il travaillait énormément. Et donc, le Seigneur des Anneaux, il l'a écrit la nuit sur ce qu'il appelle son temps volé. Il a écrit pour ses amis, pour ses enfants, pour son fils en particulier, Christopher. Et quand on est professeur d'université, on n'a pas le temps d'écrire des romans, ou alors ça prend 15 ans.
Alors Vincent Ferré, on va comprendre pourquoi Tolkien a mis tant de temps à écrire. On va raconter cette saga du Seigneur des Anneaux. Tout commence dans son enfance.
Mais oui, dans son enfance, forcément, il est anglais. Il est né en 1892 en Afrique du Sud. Pourquoi il est né en Afrique du Sud? C'est quoi l'histoire familiale?
C'est ça, ses parents sont venus dans ce qui était l'État libre d'Orange, donc c'était pas l'Afrique du Sud encore. Et tout simplement, son père, pour essayer de faire fortune ou de gagner sa vie suffisamment pour avoir une famille, donc ils sont vraiment anglais. Et son père travaillait dans une banque, et malheureusement, donc Tolkien a connu l'Angleterre, l'Afrique du Sud, du coup, pendant un peu plus de 3 ans. Et pendant un voyage qu'il a fait avec sa mère dans sa famille en Angleterre, son père est tombé malade et est mort très rapidement. Et il n'est jamais retourné dans le sud de l'Afrique.
Donc Tolkien va grandir finalement, ses premières années, va essentiellement les passer en Angleterre, où?
Oui, près de Birmingham. En fait, Tolkien, vraiment, son lieu, son imaginaire, c'est l'ouest de l'Angleterre. C'est entre Birmingham, Oxford, un peu le pays de Galles au moins pour l'imaginaire. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de beaucoup voyager. Alors il est allé en France pendant la guerre, il est allé en Suisse, effectivement, en Italie. Mais il n'avait pas besoin de voyager réellement, il pouvait voyager par la pensée.
C'est sa mère qui lui apprend tout?
Effectivement, les premières années, il reste avec son frère à la maison avec sa mère, qui lui enseigne le dessin, les langues, l'écriture. Et c'était un petit enfant extraordinairement doué pour tout. On a encore gardé des dessins, des aquarelles qu'il a réalisées, c'est très beau. Plus tard, il deviendra un acteur vraiment très polyvalent, très doué. Ça a été aussi un meneur d'hommes, il était capitaine d'équipe de sport, il était président de toutes les associations possibles à Oxford. Donc il ne faut pas l'imaginer, on le voit souvent d'ailleurs sur les couvertures des livres, comme un monsieur d'un certain âge, un peu patriarche, très sérieux. En fait, c'était quelqu'un plein de fantaisie, plein de vie et plein de talent. Et d'abord, sa mère, effectivement, a été la première personne à lui apprendre des choses qui vont lui rester toute sa vie.
Alors forcément, on est curieux de savoir que pouvait lire J.R. Tolkien quand il était jeune enfant. Quelles étaient les histoires qui le passionnaient?
Alors, il en a parlé dans un texte qui concerne les contes de fées, où il explique qu'il a aimé les histoires d'Indiens, les histoires du roi Arthur et toutes les histoires qui concernent le nord de l'Europe. En revanche, ce qu'il détestait, c'était les histoires qui prennent les enfants pour des gens un peu bêtes, pour dire les choses clairement. Il a essayé de faire comprendre que le lien entre le conte de fées et les enfants était un peu accidentel, et que le conte de fées, ça pouvait vraiment être une chose sérieuse, et que d'autre part, il fallait donner aux enfants des livres un peu plus grands qu'eux pour les aider à grandir. C'est une de ses grandes idées.
Donc les contes d'Andersen, c'était pas trop son truc, par exemple, à Tolkien.
Ou L'île au trésor.
Alors, il a dit des choses un peu variables à ce sujet. C'est vrai qu'il a eu tendance à opposer, mais Tolkien, en fait, essayait souvent de mettre à distance des gens qui auraient pu être de grands modèles. Or, Stevenson, pour les lecteurs de Tolkien, c'est un grand modèle et une grande référence. Donc, vous avez les écrivains qui disent « Non, celui-là ne m'a pas du tout inspiré ou je le détestais. » C'est souvent le signe qu'il faut creuser.
Alors, on va essayer de trouver là, des passerelles entre la vie de Tolkien et ce qu'il a pu décrire dans son œuvre, et notamment dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, vous nous avez dit qu'il s'installe près de Birmingham, c'est ça. Ça s'appelle comment le village où il vit, Sare Hall ?
C'est ça,
dans la campagne. On retrouve cette campagne, où ça ?
En fait, il a été marqué dans son enfance par la nature. Par les arbres, par les espaces naturels, par cette campagne anglaise qu'on va retrouver sous une forme ou sous une autre dans le monde imaginaire dont je parlais. La Terre du Milieu qu'il a inventée, c'est une partie du monde qu'il a inventé. Et la Terre du Milieu, c'est l'Europe, il y a des milliers d'années. Donc située entre les océans, la Terre du Milieu. Et cette Terre du Milieu, une partie de la Terre du Milieu, donc la comté, le monde des Hobbits, le comté, ressemble à une Angleterre rurale d'avant l'industrialisation. Il est né en 1892 et il a été marqué, mais comme plein de personnes vivant en Europe aujourd'hui et qui ne sont pas nées dans des grandes villes, marquées par des souvenirs d'enfance. Pour certains, c'est le bord de la mer et l'océan. Pour d'autres, c'est la campagne. Et les images de nature, l'importance des arbres, par exemple, va être affirmée tout au long de sa vie, pas seulement dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans ses lettres et également dans ses dessins, ses aquarelles.
Alors là, on a le décor déjà de tous les romans et du monde de Tolkien. Et puis, il y a ces fameuses langues. Tolkien a inventé des langues de toutes pièces. C'est son déménagement dans la ville même de Birmingham qui déclenche cette passion pour la création des langues ?
Alors, Tolkien a expliqué qu'en fait, il a toujours inventé des langues. À un moment donné de sa vie, il a fait une analogie, une comparaison avec la musique, en expliquant qu'il aimait la musique, mais qu'il ne composait pas de musique, et que par conséquent, lui, son équivalent, c'était la composition de langues imaginaires. D'abord, des langues imaginaires pour sa famille, avec ses cousines. Il inventait des langues que les adultes ne pouvaient pas comprendre.
D'accord.
Et comme il le dit, ça, tous les enfants le font. Sauf que lui n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté par goût, il connaissait énormément de langues, alors les langues classiques, le latin, le grec, mais il a appris beaucoup de langues modernes, le français, l'espagnol, le russe, l'italien. C'était un polyglotte, visiblement, il était extrêmement doué pour apprendre les langues.
Mais ces langues imaginaires, elles sont cohérentes? Il y a une forme de grammaire
De... C'est ça. Ça paraît absolument sidérant, c'est qu'on connaît de Tolkien surtout ses romans, ses poèmes, et on considère qu'il, bon, parmi les milliers de pages qui sont conservées à la bibliothèque Bodleian à Oxford, on considère qu'il y a autant de pages sur les langues imaginaires que de pages sur la fiction.
Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques mots, quelques paroles de cette langue, d'une des langues imaginaires de Tolkien.
Ataremma ian hanea na aire esselia aranielia natuluva na care indo meglia che mende tamberumand.
C'est la liste des courses, non?
Oui, c'est ça. C'est Thomas, il faut ranger votre chambre.
Ah oui, d'accord.
Vincent Ferré, je vous vois sourire. Ouais. Vous reconnaissez cette langue? Vous comprenez peut-être
alors,
même vous
Non, moi je suis pas spécialiste des langues parce que c'est absolument génial, mais c'est un travail de recherche en soi. Non, je souris parce que c'est souvent le passage qu'on va citer dans Le Seigneur des Anneaux, mais il faut savoir que Tolkien a inventé une cinquantaine de langues, dont une dizaine avec des milliers de mots et une grammaire et plusieurs alphabets et des langues qui évoluent au fil du temps. Mais oui, il a inventé un univers depuis l'apparition du monde, l'apparition des dieux, des elfes, des hommes. Et en fait, puisque c'était à Oxford un spécialiste de langues médiévales, de langues anciennes et modernes, les langues évoluent. Le français évolue depuis le latin. Eh bien, il a reproduit cette évolution des langues. Pas parce qu'il était excentrique, mais parce qu'il aimait créer et il avait envie de faire sentir à ses lecteurs le passage du temps. Le fait qu'on est là maintenant, en 1954, lorsque paraît Le Seigneur des Anneaux, mais qu'on est pris dans une histoire qui nous dépasse complètement.
Et bien cette histoire qui nous dépasse complètement et qui est absolument passionnante, on va continuer de la raconter dans un instant sur RTL. Nous sommes avec Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge.
20h-22h.
Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment est né l'un des romans les plus lus au monde, la saga du Seigneur des Anneaux? C'est l'œuvre de Tolkien, on vous raconte son histoire ce soir avec Vincent Ferré, auteur et professeur de littérature. On découvre avec vous depuis quelques minutes que ce monde fantastique a grandi dans l'esprit de Tolkien dès son enfance. Et il faut raconter une étape importante, il a 12 ans et sa mère meurt. À qui est-il confié ?
Oui, ça a été le deuxième choc après la mort de son père, alors qu'il n'avait pas 4 ans. Sa mère meurt de maladie. Et c'est un bouleversement pour Tolkien. Et moi, je ne crois pas trop au lien entre la vie des écrivains et leur œuvre. J'aime trop Proust pour ça, mais dans le cas de Tolkien, il faut quand même le prendre en compte. L'expérience de la séparation, de même qu'il a perdu la plupart de ses amis à la guerre, on en parlera, c'est un survivant, Tolkien, miraculeusement. Et donc, l'expérience de la séparation, du deuil, de la mort est absolument centrale. Et on dit souvent, on cite souvent la lettre où Tolkien explique que au cœur du Seigneur des Anneaux, c'est pas la bataille, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'anneau, c'est la mort et l'expérience de la mort. Et du fait que les hommes doivent accepter leur mort, mais essayer de faire quelque chose de leur existence avant.
Et donc il perd sa mère, il est confié à
Il est confié à un prêtre, le père Francis Morgan, qui est d'ascendance à la fois galloise et anglo-espagnole. Et il est catholique. Sa mère s'est convertie peu de temps avant au catholicisme, en terre anglicane, ce qui était très compliqué. Et Tolkien va garder toute sa vie une foi très personnelle, très intense, très profonde, dont il parle un petit peu. Il en parle dans ses lettres, que j'ai eu le plaisir de traduire avec Delphine Martin pour, aux éditions Bourgois. Il en parle, on sent que c'est quelque chose qui est lié à l'amour qu'il a pour sa famille, pour ses lecteurs. Donc, il en
et
parle
cette foi, on la retrouve dans son œuvre ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que pas dans Le Seigneur des Anneaux, c'est volontaire puisque l'histoire est censée se passer des milliers d'années avant notre ère, donc avant le christianisme, mais le monde dans lequel se déroule Le Seigneur des Anneaux a été un monde créé par un dieu unique, avec des personnages qui ressemblent à des anges. Donc il y a une forme de divinité, de transcendance, de destin, et les hommes doivent frayer leur chemin dans le monde. Donc c'est, la foi de Tolkien est profonde, elle est cachée dans son œuvre de fiction.
Autre grande étape importante pour Tolkien, cet étudiant qui se passionne pour la philologie, c'est l'amour des mots, pour les langues, qui en a créé plus d'une cinquantaine. Il y a un poème épique qu'il lit et qui va changer sa vision du monde.
C'est ça. Beowulf. Le poème Beowulf qui, pour les Anglais, est un petit peu l'équivalent de la chanson de Roland pour les Français. Et Tolkien le découvre en même temps, pendant qu'il est lycéen, il découvre plusieurs langues déjà, dont l'ancien anglais et le moyen anglais, et Beowulf va être son objet d'étude. Et alors on ne mesure pas l'importance des découvertes faites par Tolkien sur Beowulf. Jusqu'alors on ne prenait pas au sérieux ce poème, on le prenait plus comme un document historique. Et Tolkien a publié en 1936, alors qu'il est professeur à Oxford, un texte qui est encore le plus cité dans l'histoire de la critique anglophone sur un texte médiéval, où il explique que c'est un poème, que c'est un poème essentiel pour nous parce qu'il parle de la place de l'homme dans le monde, qu'il parle du rapport au monstre ou au monstrueux ou à l'altérité, à ce qui est différent de nous. Et surtout, il met l'accent sur, j'en parlais tout à l'heure, le sentiment de profondeur temporelle. Dans Beowulf, qui raconte l'histoire d'un homme qui affronte un ogre puis un dragon, on a beaucoup d'aperçus d'un monde ancien qu'on ne comprend plus. Et il va reproduire dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Silmarillion cette impression de profondeur.
Alors, vous nous dites que chez Tolkien, oui, il y a des résonances entre ce qui lui est arrivé dans la vie et, oui, et son œuvre. Donc, on continue de raconter sa vie. On est au début du XXe siècle, 1914. Le monde réel s'écroule. C'est la Grande Guerre. Que fait Tolkien ? Il est mobilisé un peu plus tard, c'est
oui,
ça ?
En fait, il termine ses études. Mm-hmm. Il explique que ça a été dur de résister à la pression, mais qu'il a terminé ses études. À l'époque, il était étudiant à Oxford, boursier, extrêmement doué, mais on en reparlerait un peu dissipé. Les deux premières années, il manque d'échouer à ses examens parce qu'il fait mille choses. Je disais, les présidents d'associations, pour amuser ses copains, il vole un bus qu'il rapporte au collège, il monte sur le toit, enfin comme tous les étudiants d'Oxford un peu doués.
Oh, ça nous rassure, voilà. C'est pas juste un bon élève.
Et puis, il y a un virage au bout de 2 ans, il passe du latin grec à la philologie et aux langues germaniques, au vieil anglais, à l'ancien anglais qui se met à étudier. Il va devenir un des spécialistes mondiaux au cours de sa carrière.
Et donc 1916, il est mobilisé.
Il devient officier dans les transmissions et il est envoyé en France. Il participe à la bataille de la Somme, qui est une boucherie effroyable. Et un livre publié récemment aux éditions Bourgois, Tolkien et la Grande Guerre, raconte à quel point ça a été décisif, expliquant comment il avait déjà inventé des poèmes avant. Pendant sa convalescence, il a mis sur le papier les premiers textes mythologiques, entre guillemets.
Attendez, parce qu'il a été, il a été blessé pendant, voilà, pendant la guerre.
Il est tombé malade. D'accord. En fait, il a échappé au carnage, contrairement à beaucoup de ses amis, parce qu'il est tombé malade. Il a attrapé la fièvre des tranchées. En fait, ça veut rien dire, mais moi, ça me fait penser un peu au paludisme. Mmh. Très forte fièvre pendant très longtemps, pendant des mois et des mois. Il est rapatrié. Et il est resté malade très longtemps, il n'a pas pu être réaffecté. Et comme souvent les écrivains sur un lit d'hôpital de Spassos Lee Joyce, eh bien, Tolkien invente ce qu'il appelle les contes perdus. L'histoire d'un marin qui arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas et il assiste à une cérémonie, enfin, ou à un rituel de récitation de contes. Et il les met par écrit. Mmh. Et c'est le début de ce qui deviendra le Silmarillion.
Et avant ça, avant de tomber malade, il a travaillé, je crois, dans les transmissions. Oui, et ça lui a servi aussi
Il était doué pour les codes. Il a appris à coder, à transmettre les messages. Vous savez, comme c'était vital en 1914 et 1916. Et donc, toute sa vie, il est resté dans les alphabets codés.
Vincent Ferret, vous publiez de nombreux ouvrages pour tous les amoureux de Tolkien et puis ceux qui ne connaissent pas, qui vont avoir envie de le découvrir, lire Tolkien chez Pocket, le dictionnaire Tolkien chez CNRS Édition. Et ce soir dans la curiosité, on continue de vous raconter la naissance d'un écrivain. Comment Tolkien a imaginé depuis son plus jeune âge une saga qui a bouleversé le monde de la littérature et qu'il ne publiera qu'à 62 ans. Ça nous laisse un peu d'espoir.
Bah oui, vous écoutez RTL.
Un jour, je me souviendrai de tout ce qui s'est passé. De bon, de mauvais. De ceux qui ont survécu ou n'ont pas survécu.
Voulez-vous la paix ou la guerre ?
Tout va se mêler.
Je veux la guerre.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La saga du Seigneur des Anneaux est l'une des histoires les plus lues au monde et l'on vous raconte ce soir comment son auteur Tolkien a fait grandir, naître depuis sa plus tendre enfance, un univers peuplé de hobbits, d'elfes, de seigneurs, des ténèbres, de magiciens. Vincent Ferret, Tolkien a été profondément, le raconter, marqué par la Grande Guerre et notamment par les scènes de combat et d'horreur. Elles vont lui inspirer, par exemple, le Marais des Morts dans son œuvre. C'est quoi le Marais des Morts ?
Alors, en fait, on vient entendre un extrait où un personnage dit « je veux la guerre ». Eh bien, Tolkien ne voulait pas du tout la guerre. Et tous les personnages qui sont valorisés dans le livre sont des personnages qui peuvent combattre, mais qui préféreraient ne pas avoir à combattre. Voilà. Et il a été profondément marqué par le massacre de tous ces gens qu'il voyait. Et dans Le Seigneur des Anneaux, je pense qu'on sent vraiment le respect de la vie humaine, mais de chaque vie humaine, de chaque individu. Et en fait, tous les peuples, les hobbits, les nains, les elfes, entre autres, sont des sortes de représentations d'une partie de l'homme ou d'une facette de l'homme. Les elfes, ils sont un petit peu, c'est les artistes, mais des gens qui vivent dans le passé. Les hobbits sont des personnages dont on se sent proche, mais ils sont petits parce que ça représente leur esprit de clocher et leur étroitesse intellectuelle, dit Tolkien, qui les aime beaucoup, mais qui se moque d'eux. Voilà. Les nains sont plus près de la création, par exemple.
Et le Marais des Morts, alors ?
Le Marais des Morts, on dit souvent, alors c'est un des lieux désolés qui se trouve près du Mordor, qui est le but du voyage où on doit détruire l'anneau, c'est un lieu qui rappelle les tranchées. C'est-à-dire, c'est un lieu qui est le vestige d'une bataille ancienne et où on voit dans les flaques des images des disparus. Et les personnages qui traversent le Marais des Morts sans connaître l'histoire sont pris d'émotion en voyant tous ces morts qui sont encore là, bien qu'ils ne soient pas physiquement présents. Donc c'est la trace du carnage que ça a pu être. Et Tolkien était vraiment quelqu'un de courageux. Il a été officier pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux de ses fils étaient combattants. Il était dans la défense passive à Oxford. Mais c'est quelqu'un qui n'aimait pas la guerre.
Mmh. Et de cette expérience des tranchées naît aussi un personnage, Sam Galleggi ou Galleggi.
Gamgee.
Qui lui a inspiré ce personnage ?
En fait, les héros du Seigneur des Anneaux, ça pourrait être des personnages chevaleresques comme Aragorn ou Boromir, et pas du tout, ce sont des hobbits. Et Tolkien les a choisis parce que ce sont des personnages qui ne veulent pas être des héros, mais qui ont le choix entre ne rien faire de leur vie et mourir, bon, ou essayer de faire quelque chose en profitant du temps qu'il aurait laissé. C'est une image un peu de la vie humaine. Et ils vont petit à petit s'aguerrir, trouver en eux des ressources vraiment insoupçonnées, sans pourtant dépasser leur stature de hobbit. Ils vont rester simples. Et parmi les très belles phrases qu'on trouve dans Le Seigneur des Anneaux et dans La Fraternité de l'Anneau, la nouvelle traduction, un des personnages principaux dit « Ce sont les petites mains qui font tourner les roues du monde, parce que les grands regardent au lointain et ne voient pas ce qui se passe. » Les petites mains sont les petites mains des hobbits. Donc Sam Gamgee, c'est le plus fidèle compagnon de Frodo qui porte l'anneau, parce qu'il y a bien quelqu'un qui doit porter l'anneau comme un fardeau. Et Sam est le jardinier, et c'est lui qui a les pieds sur terre, qui garde la nourriture pour revenir du Mordor. C'est bien joli d'aller jusqu'au Mordor, mais il faut bien en revenir. Et c'est le plus grand des héros de Tolkien, d'après Tolkien. Dans le
Vincent Ferré, on parle des hobbits comme si on savait tous ce que c'était. Mais en fait, parce que je vois des yeux écarquillés, par exemple, notre réalisateur André Facetta, il se dit, mais bon sang, c'est quoi un hobbit? Un hobbit, c'est quoi? Ça ressemble à quoi?
C'est un homme en plus petit.
Mais c'est une création de Tolkien?
Alors, oui et non. On dit souvent qu'il a inventé le mot et c'est ce qu'il y a dans les... Excusez-moi de dire oui et non à chaque fois, mais c'est compliqué.
C'est pour ça qu'on vous a invité.
Voilà, c'est ça.
Vous allez rentrer dans notre liste d'invités.
Quand vous...
L'invité qui dit oui et non.
Quand vous ouvrez un dictionnaire anglais, on voit Hobbit, mot inventé par Tolkien. En fait, il existait sans doute avant lui, il l'a peut-être lu enfant, il l'a oublié. Un Hobbit, c'est une sorte de lutin. C'est un personnage qu'il invente pour ses enfants, parce qu'il a inventé beaucoup d'histoires pour ses enfants, dont toutes ont été publiées après sa mort ou presque. Rover and Dom, je raconte souvent l'anecdote. Voilà, les personnes qui ont des enfants qui perdent un doudou savent le cauchemar que c'est. Eh bien, un des enfants de Tolkien a perdu un petit jouet sur une plage de galets. Ils ont passé 3 jours à retourner tous les galets de la plage, et il a fallu se rendre à l'évidence.
Ça rappelle des souvenirs.
Tolkien a inventé une histoire pour consoler son fils Michael. Et c'est devenu Rover and Dom, l'histoire d'un petit chien qui se transforme en jouet, qui part sur la lune, etc. Il y a Monsieur Merveille. Je cite des titres qui sont disponibles en français. Il y a les lettres du Père Noël qui sont magnifiques. Chaque année, il a écrit, dessiné des lettres qu'il laissait à ses enfants qui venaient du pôle Nord. Et le Hobbit, c'est une histoire qu'il a inventée petit à petit pour ses enfants, pour une histoire pour qu'ils s'endorment le soir et qui raconte l'histoire d'un personnage qui part à l'aventure avec un magicien des nains pour aller trouver un trésor. C'est vraiment beaucoup plus simple que le Seigneur des Anneaux. Et la personne qui l'écoute le plus attentivement, qui retient les noms des nains et la couleur de leurs vêtements, c'est le petit Christopher. Qui est né en 1924, qui est maintenant
c'est
un monsieur.
Son cadet,
c'est son troisième enfant.
Troisième enfant.
Et c'est lui qui, à partir des années 70, quand Tolkien meurt en 73, édite l'œuvre de son père. Donc c'est maintenant un monsieur de 90 ans qui a édité de très nombreux livres, parce qu'il faut bien savoir que Tolkien, à sa mort en 73, nous laisse Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, quelques textes beaucoup plus brefs, des textes universitaires très importants, mais les milliers de pages qui racontent la création du monde, le Silmarillion, qui raconte, qui sont des réécritures de récits, de légendes nordiques, etc., sont rangés, enfin, pas rangés, dans le plus grand désordre, et c'est son fils qui a édité tous ces textes pendant 40 ans.
Mais Vincent Ferré, est-ce que certains des personnages que vous décrivez lui ont été directement inspirés par des compagnons de tranchées, par exemple ?
C'est pas aussi direct que ça. Mmh. Il explique que Sam Gamgee est une image du soldat, du fantassin qu'il a côtoyé et qu'il respectait, lui qui était officier. Il aurait pu, vous savez, en Angleterre, en 1914, les rapports de classe sont très marqués. Eh bien, il y a une forme de fraternité qui se crée à ce moment-là et qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, dans la fraternité composée par une communauté de personnages complètement dissemblables. Sont restées célèbres les disputes entre le nain et l'elfe, qui petit à petit deviennent amis. Au début, ça semble... On ne peut pas les concilier. Normalement, ils passent leur temps à se disputer. Mais ils découvrent qu'en fait, évidemment, ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne l'imaginaient.
Dans la vie de Tolkien, on a parlé de ses enfants qui sont très importants parce qu'il écrit beaucoup pour eux. Il leur lit des histoires. Et il a une femme aussi. C'est la femme de sa vie. Ils vont rester ensemble, je crois, toute leur vie. C'est Edith. Oui.
Voilà.
Est-ce qu'Edith, on la retrouve? Est-ce que l'histoire de leur couple, on va la retrouver dans Le Seigneur des Anneaux?
Alors, Edith Bratt, que Tolkien rencontre à 16 ans, effectivement, vous dites l'amour de sa vie. Ils ont été séparés lorsque leur amour adolescent a été découvert par le père Francis Morgan qui disait « D'abord, tu termines tes études ». Et jusqu'à sa majorité, Tolkien a dû accepter à Oxford d'interrompre les relations. Ça a été le début, évidemment, d'un amour contrarié.
La majorité, c'était 21 ans à l'époque.
Et le jour de ses 21 ans, il a écrit une lettre, ils se sont mariés. Et il a écrit pour elle la plus belle histoire de toutes les histoires, si j'en veux, l'histoire d'un amour impossible entre un homme et une elfe. Donc un homme qui est destiné au trépas et une elfe qui vivra aussi longtemps que vivra le monde. C'est donc un amour impossible. En plus, le père de l'elfe ne veut absolument pas que sa fille, la princesse Luthienne, épouse Beren. Et Tolkien explique que l'idée de l'histoire est venue en voyant sa femme danser dans une clairière, sa femme Edith danser dans une clairière. Et on sait que sur sa tombe, il a fait graver, parce qu'elle est morte un peu avant lui, simplement les noms Beren et Luthienne, comme symbole de leur histoire d'amour.
C'est après, bien après la Première Guerre mondiale, que Tolkien va écrire le Seigneur des Anneaux. Comment va-t-il avoir l'idée géniale de cette saga? On vous dit tout dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Le Seigneur des Anneaux et ses 3 volets, la Communauté de l'Anneau, les 2 tours et le Retour du Roi. C'est devenu une œuvre absolument universelle, une mythologie qui a inspiré des films, des romans de fantasy, des jeux de rôle et même des jeux vidéo. On vous raconte comment cet univers gigantesque est né dans la tête d'un jeune professeur d'anglais, Tolkien. On est avec vous, Vincent Ferré. Vous publiez notamment une nouvelle traduction du premier volet du Seigneur des Anneaux. C'est aux éditions Bourgois et ça s'appelle La Fraternité de l'Anneau. Alors, ça n'a pas le même nom que La Communauté de l'Anneau.
C'est traduit par Daniel Lauzon,
oui.
qui a retraduit Le Hobbit en 2012 et qui, dans la nouvelle traduction, décidée par Dominique Bourgois, a suivi les indications que Tolkien a laissées à l'intention des traducteurs, vu qu'il parlait toutes les langues. Il a dit, voilà, ces noms propres, il faut les garder. Et cela, il faut les traduire, et voilà comment il faut les traduire. Et Daniel Lauzon a appliqué les demandes de Tolkien.
Alors, ce qui est fascinant chez Tolkien, c'est que jusqu'à ses 40 ans, il va s'enrichir de sa vie, créer des mondes, s'inspirer de personnages, d'événements. Mais il n'a toujours pas écrit son chef-d'œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Et il travaille avant à sa grande mythologie, à sa grande passion. C'est, vous l'avez évoqué rapidement, le Silmarillion. De quoi s'agit-il ?
C'est donc l'histoire des Silmarils qui sont des joyaux, mais en fait le Silmarillion...
Des joyaux ?
De pierres précieuses. Mais, j'allais dire, le Silmarillion, c'est l'histoire du monde dans lequel, qui sert de cadre au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un petit moment dans l'histoire du monde inventé par Tolkien et présenté dans le Silmarillion.
Ça veut dire que les 1000 pages qu'on peut lire aujourd'hui, oui. que beaucoup connaissent du Seigneur des Anneaux, c'est qu'une infime partie de toute la cosmogonie, l'univers qu'il a inventé.
Exactement. Et en fait, Tolkien est quelqu'un qui écrivait énormément et qui publiait peu. Qui, lorsqu'il avait fini d'écrire une version d'un texte, réécrivait la même histoire, mais en vers, par exemple. Il la lisait à ses amis, et puis il trouvait que sur le plan du style, c'était pas encore ça, donc il la refaisait en prose. Et il la rangeait dans un tiroir. Christopher Tolkien a, par exemple, montré qu'il y a, pour un même texte, 7 versions différentes. À la main, tapé à la machine, corrigé à l'encre rouge, à l'encre bleue. Tout simplement parce que Tolkien est quelqu'un qui vraiment faisait très attention au style, qui jouait de l'histoire de la langue anglaise qu'il connaissait mieux que personne, et il voulait parvenir à une forme de qualité de style.
Mais il travaillait tout le temps, il écrivait tout le temps
Je crois vraiment.
Des
biographes se sont amusés à reconstituer son emploi du temps, puisqu'il était dans dans l'organigramme à Oxford, il était dans beaucoup de commissions en même temps. C'est quelqu'un qui a profondément changé les études à Oxford, par exemple, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme socle d'humanité pour les jeunes gens maintenant, pour les officiers pendant la guerre ou pour les jeunes gens maintenant. Et c'est quelqu'un qui pensait que la littérature était une porte d'accès vers un patrimoine commun. Il défendait mordicus cette conviction que les langues et la littérature sont liées. Moi, comme professeur de littérature, je veux dire que j'adhère complètement à ce credo. La littérature,
mais ça, c'est pour tout le monde. Pour qu'on soit situé, c'est l'entre-deux-guerres, c'est ça ?
Oui, il a été professeur à Oxford entre 1925 et 1959, pendant 35 ans.
D'accord.
Et il a transformé Oxford et il écrivait sur son temps volé, puisqu'il recevait les étudiants à Oxford, on les voit par petits groupes. Et il aimait beaucoup lire à ses amis, un petit groupe qu'on appelait les Inklings, parmi lesquels figurent des gens connus comme C.S. Lewis. Par exemple, il leur lisait les textes qu'il écrivait.
C'est le C.S. Lewis, c'est l'auteur du monde de Narnia,
entre autres,
qu'on a pu découvrir aussi dernièrement en film. Ce sont des films américains.
Et donc, il écrivait beaucoup et il publiait relativement peu. Et Christopher Tolkien a trouvé des textes complètement terminés, mais qu'il a publié encore récemment, comme La légende de Sigurd et Gudrun. C'est une réécriture de la légende qui va donner du côté allemand Siegfried, Lady Melungen. Tolkien avait écrit dans les années 30 une version à lui pour un petit peu faire contrepoids à ce qui se passait en Allemagne nazie.
Vincent Ferré.
Et le Seigneur des Anneaux,
et oui, alors écoutez,
c'est quand ?
Apparemment, l'idée du Seigneur des Anneaux, mais décidément, c'est pas vrai, serait venue à Tolkien en corrigeant les copies de ses élèves. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Parce que c'est pas les premières copies qu'il corrige, j'imagine.
Ce qu'on raconte souvent, ce qu'il raconte avec beaucoup de malice dans une émission de la BBC qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, bon, il avait déjà commencé à inventer des histoires pour ses enfants, et puis, au dos d'une copie, il a écrit, voilà, dans un trou dans le sol vivait un hobbit. Et ça a été le début, le mot lui est revenu, où il a inventé le mot, et ça a été le début de l'histoire Le Hobbit, qui par hasard arrive entre les mains d'un éditeur qui le publie, et là, grand succès en littérature de jeunesse. Mais du coup, un grand malentendu, parce que Tolkien a publié ce texte vraiment par accident.
Attendez, vous allez trop vite là.
Donc, en 37.
Parce que là, on est passé de la copie d'un élève.
Ouais.
D'accord. Au dos de la copie.
Et il se met.
Il est dans
vous
ses
savez,
rêveries.
Ça peut aller vite, hein.
Oui, non, mais oui, quand même. Il est dans ses rêveries et il écrit la première phrase.
Ouais. Il invente le
du livre
de l'histoire,
Le Hobbit. Donc, et ce livre fait combien de pages ? Parce que
250 pages.
D'accord. C'est pas encore Le Seigneur des Anneaux.
Non. Succès énorme du Hobbit en 1937, malentendu parce que Tolkien ne voulait pas écrire d'histoire pour les enfants, et il donne à son éditeur quelques aperçus de ce qu'il écrit depuis 20 ans, l'histoire des elfes, le Silmarillion, des vers, de la prose. Et l'éditeur ne regarde pas vraiment et lui dit...
Pourquoi c'est trop sombre ?
Il lui dit, je veux encore des histoires de Hobbit, ça a très bien marché.
Je veux des histoires d'enfants, pour enfants.
Et là, Tolkien dit, mais non, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ça colle pas avec mon univers. Essayez, Tolkien, essayez. Il joue le jeu, mais c'est aussi pour ça qu'il a mis autant de temps, entre 1937 et on dit 1949-1950, à finir Le Seigneur des Anneaux, la nuit bien souvent. Et...
C'est-à-dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est ce fameux deuxième volume du Hobbit que
c'est la suite.
Les éditeurs le forcent à écrire.
Mais oui, mais ce qui est amusant avec Le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est à la fois une œuvre de commande, et un roman, on lui demande en gros un roman de 250 pages qui raconte la même chose que le Hobbit, il écrit un roman de 1278 pages en français qui raconte tout autre chose, qui n'est plus du tout pour les enfants et dans lequel qu'il parvient à rattacher à sa grande mythologie. Stupeur de l'éditeur, évidemment, qui va jouer le jeu. Mais Tolkien met encore 3 ou 4 ans avant de parvenir à une forme publiable et il décide d'injecter, et c'est devenu une des recettes des livres de fantasy. A réussi à injecter des documents historiques sur son monde, des extraits d'alphabets, des extraits d'histoires qu'il a vraiment écrites, des cartes qui sont extraordinaires et dessinées par Christopher Tolkien. Et ça, c'est la formule. Un livre qui paraît en 3 parties, un peu par hasard, parce que après-guerre, il y a les problèmes de pénurie de papier. Un livre en 3 parties, avec des cartes, avec des documents historiques, c'est la base de ce qui va se faire après les années 60 pour imiter Tolkien, jusqu'à J.R. Martin maintenant.
Et donc le premier volume du Seigneur des Anneaux, il paraît quand ?
En 1954.
C'est tout de suite un grand succès ?
Pas vraiment. En Angleterre, un succès d'estime, mais l'explosion va avoir lieu 10 ans plus tard, aux États-Unis, lorsque les étudiants américains vont s'emparer de cette œuvre et se l'approprier. Et ça, c'est intéressant, ça montre que Tolkien parle à tout le monde, dans le monde entier. Quand on fait des discussions en bibliothèque, on voit qu'il y a des gens de toutes les générations qui aiment Tolkien. Et en fait, Tolkien va être lu sur les campus américains, au moment de la contre-culture, comme le livre qui leur permet d'exprimer, aux étudiants américains, le rejet de l'oppression, du totalitarisme, de la guerre du Vietnam. Et ils vont s'approprier ce texte, à la grande surprise de Tolkien, bien sûr, mais ça va être massif comme appropriation. Les musiciens vont être inspirés. On sait que Led Zeppelin a écrit des textes qui font référence à l'univers de Tolkien. On sait que les Beatles auraient dû jouer dans une adaptation du Seigneur des Anneaux. Voilà quelques exemples. Le réalisateur de Fritz the Cat, qui est un film d'animation pour adultes de cette époque-là, en 78, sort une adaptation du Seigneur des Anneaux, à la fois animée et en rotoscope.
Tolkien devient une référence pour les lecteurs et les artistes du monde entier. On continue de vous raconter son histoire dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
C'est l'une des langues inventées par Tolkien, c'est le Kenya, je crois.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Pourquoi cette œuvre, sans équivalent dans la littérature de son temps, a-t-elle rencontré un tel écho chez les dizaines de millions de lecteurs qui s'y sont plongés ?
RTL.
Elfes, nains, hommes et orques, chacun parlant sa propre langue, inventée de toutes pièces.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'univers, la richesse du Seigneur des Anneaux, un monde inventé par Tolkien, J.R.R. Tolkien. C'est quoi ses initiales déjà ?
John Ronald Reuel Tolkien.
Bah voilà, parce que fallait pas passer une heure d'émission avec Tolkien sans savoir quels étaient ses prénoms. Il a inspiré évidemment énormément d'artistes, d'auteurs. Lesquels ?
Alors, c'est vraiment tous azimuts. C'est en littérature, au cinéma, en musique, dans la société, dans les jeux. L'explosion dont on parlait tout à l'heure dans les années 60 a complètement dépassé Tolkien, qui était assez distant de ce phénomène. Et en fait, les lecteurs du monde entier ont voulu vivre dans cet univers, plonger dans cet univers et y rester. Donc certains ont fait des illustrations, d'autres ont inventé des suites. Et en fait, les éditeurs américains ont eu l'idée de lancer toute une génération d'écrivains qui allaient proposer du Tolkien sans que ce soit du Tolkien, vous voyez ?
Oui.
Et on retrouve vraiment parfois la même chose.
Mais le genre qu'on appelle heroic fantasy,
c'est pas Tolkien.
C'est pas Tolkien.
Non, Tolkien, c'est de la fantasy,
ouais.
Et vous avez beaucoup de genres différents. L'heroic fantasy, ça va plutôt être Conan le Barbare.
D'accord.
Vous avez aussi la fantasy qui part du monde réel, comme Harry Potter, pour passer dans un autre monde, Poudlard.
Donc avec Harry Potter, J.K. Rowling, il y a une inspiration liée à Tolkien. Oui.
Très nette, surtout dans les premiers volumes, jusque dans le nom des personnages ou dans les figures. Voldemort, c'est Sauron d'une sa manière.
Donc c'est un hommage revendiqué par J.K. Rowling.
Il faudrait
c'est...
voir ce qu'elle dit à ce propos. Beaucoup d'écrivains comme J.R. Martin ont déclaré leur admiration pour Tolkien dans un très beau livre qui s'appelle Méditation sur la Terre du Milieu. Ursula Le Guin également, par exemple.
C'est qui ces gens dont on parle ? Parce que là, je ne connais pas, par exemple.
Alors, ce sont des auteurs de fantasy qui sont lus par des millions de lecteurs aux États-Unis et qui, en France, sont publiés, par exemple, par les éditions Bragelonne, qui sont nées dans les années 2000 et qui ont accompagné l'essor de la fantasy en France. Mais il y a aussi beaucoup d'écrivains de fantasy français. Donc Tolkien est un peu, non pas le père directement, mais peut-être le grand-père de la génération actuelle, même s'il n'a pas inventé la fantasy. La fantasy, elle remonte au 19e siècle. Et Tolkien est une sorte de passeur. Il a modernisé la fantasy. Et pour l'adapter au 20e siècle, si l'on veut, pour la nourrir d'influences très savantes qui passent dans la fiction et qui donnent une épaisseur à son univers.
Et vous disiez que lors de la parution du Seigneur des Anneaux, il y a cette idée de rajouter au livre des cartes, de donner une espèce d'aspect concret à l'univers créé par l'auteur. Mais qui a cette idée? C'est son éditeur? C'est lui?
Non, c'est lui. Parce qu'il savait qu'il allait devoir publier le Seigneur des Anneaux sans publier son grand œuvre, le Silmarillion. Mm-hmm. Donc il a voulu proposer des extraits pour montrer que lorsqu'il y a des allusions au passé dans le Seigneur des Anneaux, ça renvoie à un passé, c'est pas un trompe-l'œil. Il a vraiment inventé les histoires qui se déroulent dans ce passé. Et les auteurs de fantasy qui vont suivre vont garder l'idée, mais parfois, ça va tourner au procédé. Ils ne vont pas inventer l'univers derrière. Tandis que Tolkien a inventé une sorte de puzzle. Il est assez unique dans l'histoire du XXe siècle pour l'invention d'un univers.
Mais cet univers, beaucoup plus grand, on l'a compris, c'est que ça. Le Seigneur des Anneaux, il l'a publié finalement.
C'est Christopher Tolkien, donc à partir des années 70, qui commence à publier l'œuvre de son père, voilà, sur 40 ans. Il l'a plus ou moins fait comprendre avec la publication de Beowulf en 2014 que c'était le dernier grand texte qu'il publierait, mais il a sorti des merveilles ces dernières années qui sont des textes de Tolkien, mais simplement il fallait le temps de déchiffrer les manuscrits, de trouver la meilleure version parmi toutes les versions, etc. Donc on a à la fois des poèmes...
Mais ce sont, pardon, je vous interromps, des histoires avec un début et une fin.
Exactement.
Oui.
On a dedans des récits pour la jeunesse, comme celui du petit chien dont je parlais tout à l'heure. Les lettres du Père Noël, ça a donné un recueil absolument magnifique. On a également des poèmes d'inspiration nordique, des poèmes complets. On a aussi le Silmarillion dans toutes ses versions. On a un dictionnaire elfique qui est absolument génial, où les mots sont rangés par racines elfiques et on voit apparaître des noms propres. Et des cartes également ont été publiées. Et puis plus récemment, Christopher Tolkien a publié des textes un peu plus fragmentaires, mais par exemple autour du roi Arthur. Tolkien a écrit un poème autour du roi Arthur que Christopher Tolkien a publié. L'image que j'emploie souvent.
Christopher Tolkien, il faut le redire,
c'est le troisième fils de J.R.R. Tolkien, né en 1924. Et l'image que j'emploie souvent, celle de l'iceberg. Quand Tolkien est mort en 73, on avait la pointe qui dépassait. Et c'est Christopher Tolkien qui a permis aux lecteurs du monde entier de découvrir ce qu'il y avait réellement.
Tolkien commence à avoir beaucoup de succès en 1954, dans les années 60, avec la sortie du Seigneur des Anneaux aux États-Unis. Comment il va vivre cette célébrité, ce succès? Parce qu'il est pourchassé, il a des fans qui l'attendent. Il le vit comment?
Alors, j'ai peu de connaissances à ce sujet, on a peu de témoignages à ce sujet. Il a essayé de mettre à distance les journalistes et les curieux, en jouant un petit peu le rôle de l'écrivain qui, à Oxford, a envie de sa tranquillité, de son calme. Il répondait toujours aux courriers, mais en ne prolongeant pas les pistes qui lui étaient tendues, en essayant de proposer des avis différents sur ses œuvres pour un petit peu ne pas enfermer son œuvre dans une seule interprétation qui serait la clé. C'est pour ça qu'on a tort lorsqu'on isole un extrait des lettres où Tolkien dit voilà, le Seigneur des Anneaux c'est autour de la mort, le Seigneur des Anneaux est une œuvre catholique. C'est tout ça à la fois et ça n'est pas ça. Donc il a essayé de mettre à distance l'intérêt public. Bon, cela dit, on était dans les années 60, donc il n'y avait pas Internet, donc il recevait des coups de fil en pleine nuit venus de la côte ouest des États-Unis de fans qui peut-être avait pris des choses un peu illicites. C'est ce qu'il raconte son biographe, parce que c'est vrai.
Ce sont les hippies notamment qui sont ultra fans de l'œuvre de Tolkien.
C'est ce qui est raconté par son biographe.
Et il pense que forcément un auteur a dû lui aussi prendre quelques substances pour écrire une œuvre pareille, c'est ça.
Mais il a visiblement bien vécu cet aspect-là des choses, parce que c'est quelqu'un qui croyait écrire, qui croyait profondément écrire pour les autres.
Et il a souffert quand même à l'écriture du Seigneur des Anneaux, c'est une commande. Tolkien, est-ce qu'on peut dire que ça a été un écrivain heureux, épanoui?
C'est un écrivain qui a mis tout son cœur dans sa fiction, qui croyait qu'il était en train de faire quelque chose que lui seul pouvait faire, mais qu'il voulait faire à son goût, à sa manière, sans aucune concession à l'égard de son éditeur, une œuvre de commande mais qui a complètement échappé à l'éditeur. Et il explique qu'effectivement, il ressentait profondément les émotions exprimées dans son texte. Lorsqu'il y a des péripéties joyeuses ou qu'un personnage semble au contraire mourir, il pleure en écrivant. Et il explique quand, lorsque paraît le Seigneur des Anneaux, qu'il a exposé son cœur au public.
Vincent Ferré, est-ce qu'il est devenu riche?
Non.
Très riche, non? Et pourtant, c'est le deuxième roman le plus vendu au monde.
C'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent toute sa vie et qui a fini par vendre ses manuscrits à l'université américaine et les droits au cinéma pour simplement assurer la vie de sa famille. Et ça lui a complètement échappé. C'est quelque chose qu'il faut dire peut-être, c'est que la question des droits est très complexe. Après, ces droits aux États-Unis ont été vendus et revendus, etc., sans que la famille ait quoi que ce soit à dire. C'est la raison pour laquelle la famille Tolkien actuellement, Christopher Tolkien en particulier, sont très distants et ne font pas de commentaires publics, parce que ça ne les concerne pas. Donc, il n'a pas été riche pendant sa vie, et toute l'agitation, l'effervescence autour des jeux de rôle, des cinémas, des jeux en ligne, etc., la famille Tolkien n'a rien à voir avec ces questions-là.
Ça veut dire que ses ayants droit ne sont pas riches non plus.
Ils sont certainement riches de droits d'auteur d'œuvres de Tolkien.
D'accord, quand même.
Mais ils sont du côté des livres.
Vincent Ferré, vous publiez presque autant que Tolkien, mais pas vraiment.
La nouvelle traduction du
Seigneur des Anneaux, la Fraternité de l'Anneau aux éditions Bourgois, le dictionnaire de Tolkien aux éditions CNRS.
Et puis moi, j'ai un Lire Tolkien, tout ce que vous ne savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux, c'est aux éditions Pocket. Voilà, avec
merci
une photo de Tolkien à la une. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.